Alors bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, même si je sais que certains viennent pour le cosplay juste après. Mais nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde en face de nous. On est l'association Forum Tali, on est une association qui fait de l'animation autour et des conférences autour de tout ce qui est culture visuelle moderne japonaise, manga, animation, jeux vidéo, visual novel, enfin toute la culture. Ils sont présents sur scène à côté de moi, Amo.
Bonjour tout le monde.
Tsushi.
Bonjour.
Nemo.
Bonjour.
Et moi-même, Yoka. Si vous voulez nos noms complets, ils sont sur le PowerPoint derrière moi. Et on va vous parler pendant une heure de l'animation japonaise et réalité virtuelle. Alors, réalité virtuelle et réalité de manière plus générale, c'était le thème des Utopiales de cette année. C'est pour ça qu'on s'est orienté là-dessus. Et en fait, il y a une réflexion assez intéressante derrière, c'est qu'on voit souvent le Japon comme un pays qui est en avance technologiquement, comme un pays qui est vraiment à la pointe de ce qui peut se faire au niveau technologique, y compris sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce que ça transparaît dans l'animation japonaise? Et on s'est rendu compte, au final, que c'est déjà quelque chose de très récent. Et en plus, ce n'est pas forcément quelque chose qui revient de manière assez générale. C'est vraiment quelques animés par-ci, par-là, qui vont en parler. Mais ce n'est pas un sujet phare, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Et c'est quelque chose qui nous a assez surpris. Là, du coup, on va pouvoir revenir tout au long de cette heure justement sur quelques-uns des animés qui ont marqué quelque part ce thème assez vaste des réalités. Juste avant de laisser la parole à Amo, je vais faire quelques remerciements quand même. Tout d'abord, merci les Utopiales de nous accueillir et de nous laisser ce créneau sur scène. Et merci Tan de faire cette journée Mangatan. Et juste après, une fois qu'on aura terminé, il y aura de la place pour des questions publiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de questions, on sera là pour y répondre et pour apporter quelques compléments d'informations par rapport à ce qu'on a pu dire. Alors tout de suite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec une œuvre dont vous avez probablement déjà entendu parler et que vous avez possiblement déjà vue.
Ah ouais, je vais commencer par un sondage de fou. Sword Art Online, ça évoque quelque chose à qui ici? Levez la main si vous avez dit quelque chose. Ça m'étonne pas. Sword Art Online, c'est justement, vous voulez commencer par le plus récent, le blockbuster le plus récent qui parle des réalités virtuelles et augmentées. En l'occurrence, donc Sword Art Online, dont l'animé a commencé en 2012 et qui commence vraiment à cartonner beaucoup en France grâce à l'animation japonaise, mais également grâce au manga, grâce aux livres, grâce aux jeux vidéo. C'est vraiment aujourd'hui devenu une grande licence transmédia. Donc on va vite fait parler rapidement. On pourrait pas parler de réalité virtuelle sans évidemment parler de SAO, sachant que on a dit 2012, mais en vrai, je vois quelqu'un qui lève la main, mais on prend les questions à la toute fin. Sauf si tu lèves la main pour autre chose, mais on n'entend pas ce que tu dis. Donc désolé. Alors, on verra tout ça.
On verra à la fin s'il y a des questions.
Donc voilà, Sword Art Online. Donc j'ai dit c'est 2012, mais en fait la genèse de Sword Art Online est beaucoup beaucoup plus vieille que ça, puisqu'en fait à la base c'est une nouvelle qui a été écrite vers 2000-2001 par Reki Kawahara, qui est l'auteur original de ce récit. La nouvelle c'était pour un concours, etc. C'est resté dans des tiroirs un petit moment. L'auteur a écrit un autre bouquin qui s'appelait Axel World, qui avait pas mal marché, donc ses éditeurs se sont dit tiens, si tu ressortais ça de tes réserves et que tu le sortais en bouquin. Il l'a sorti en bouquin derrière, en light novel. Light novel, c'est ces fameux bouquins japonais pour adolescents, jeunes adultes. C'est souvent des bouquins assez faciles à lire avec pas mal d'illustrations. On est arrivé à ce moment-là. Le bouquin a pas mal marché, l'animé a pas mal marché, la licence en général a pas mal de gros noms, de gros producteurs derrière. Donc c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'assez inévitable, on va dire, dans l'industrie actuelle. Donc voilà, Sword Art Online, pour vous faire le pitch, tout simplement, on est en 2022. En 2022, les jeux vidéo par casque virtuel, pensez aux Oculus Rift, pensez à Morpheus, pensez vraiment à tous les projets qui deviennent de plus en plus concrets. Et tous ces projets-là sont dans ce monde-là devenus véritablement bien réels. Et quand tu peux rentrer dans ton jeu, le casque découvre, c'est exactement ce que tu penses, ce que tu fais. Donc si par exemple t'as envie de bouger ton bras, tu bouges vraiment dans le jeu, t'as plus de manette ni rien. Donc voilà comment fonctionnent ces jeux-là. Donc là, on est dans un MMORPG nommé Sword Art Online. Pour l'instant, au début, on a un héros qui s'appelle Kirito. Il a fait la bêta test. Il est là dès le premier jour du jeu. Il est content. Ils sont 10 000 comme ça à être là dès le premier jour. Ils font la fête quelques temps. Et puis au moment où ils disent, il est temps d'aller manger, on va se déconnecter. Sauf que on peut plus du tout. Il n'y a plus les options ni rien. Donc tout le monde est un peu en mode... C'est bien sympa ce jeu, mais il est un petit peu buggé pour l'instant, donc ça serait bien qu'ils mettent un petit patch ou un truc comme ça. Sauf que non, parce que sur la place du village, tout le monde, il y a un grand nombre qui apparaît, qui leur dit « Je suis désolé les mecs, mais en fait, vous devez arriver jusqu'au 100e étage du donjon final si vous voulez sortir du jeu, sinon je vous laisse pas sortir, hein, c'est impossible. » Et petit bonus hein, gratuit comme ça, si vous mourrez dans le jeu, bah, vous mourrez dans la vie réelle parce que le casque, il peut vous griller le cerveau. Donc je vous déconseille de mourir. Et bonne chance. Et voilà, c'est comme ça que commence Sword Art Online. On va suivre les aventures de Kirito, qui est le héros, qui va essayer de, bah, de d'évoluer dans ce monde où il est un peu solitaire, il est un peu le jeune loup mystérieux, etc. Qui est un peu, hein, il a comme ça un bêta testeur, il connaît très bien l'endroit, il sait, c'est pas mal de choses. Donc voilà, voilà pour Sword Art Online. Le truc qui est justement assez intéressant à parler ici, c'est que même si la réalité virtuelle est techniquement au centre du scénario, parce que sans réalité virtuelle, il y aurait pas SAO. Donc il n'y aurait pas cette histoire de MMORPG qui peut te griller le cerveau. Et ben mine de rien, il y a zéro analyse, il y a que dalle. C'est-à-dire que c'est vraiment une, c'est vraiment, on va dire, c'est un pur récit d'aventure. C'est un pur shonen dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit qu'on, ça va vraiment être principalement centré sur le personnage de Kirito, sur sa relation avec Asuna qui est une jolie jeune fille, qui est une super épéiste et avec lequel ils vont très rapidement former un couple, etc. Enfin, ça c'est, je vais pas tout vous dire, mais. Donc voilà pour Sword Art Online. En fait, la réalité virtuelle, il n'y a pas vraiment de questions qui se posent dessus. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien. C'est vraiment purement un élément scénaristique qui permet de justifier l'univers. Comme par exemple dans Escaflowne, l'héroïne se retrouve projetée dans un monde parallèle d'heroic fantasy sans rien. C'est vraiment juste une excuse pour pouvoir mettre des héros un peu contemporains dans un monde d'heroic fantasy, puisque Sword Art Online est un jeu où on se bat à coups d'épée, à coups de magie, à coups de potions. Donc c'est assez intéressant, mais c'est pas forcément le plus intéressant. C'est-à-dire que même si Sword Art Online, plus le scénario avance, parce que Kirito va ensuite aller dans d'autres jeux, etc., plus on avance, plus il commence vraiment à se dire, à poser la question de comment ça fonctionne, etc. Par exemple, dans le dernier arc de la seconde saison, Mother Rosario, on découvre que la que les cadres de réalité virtuelle peuvent être utilisés pour aider les enfants qui ont des soins lourds médicaux. C'est-à-dire que comme ils subissent vraiment des traitements inhumains, ils passent vraiment leur vie dans la réalité virtuelle pour pouvoir pas se rendre compte vraiment de ce qui se passe à leur véritable corps. Donc c'est des questions sympathiques, mais ça reste encore assez léger. Pour tout vous dire, en fait, niveau MMORPG, comment dire, si vous voulez vraiment un MMORPG, une histoire comme ça, avec réalité virtuelle, MMO, qui va aller beaucoup plus loin, ben on va vous parler sans doute, je crois, Nemo, de Log Horizon.
Tout à fait. Alors, je sais pas si le micro fonctionne, du coup. Du coup, là
c'est bon.
Ça a l'air mieux. Donc oui, on va passer à Log Horizon, qui est une autre œuvre avec, on a appelé de monde imposé, c'est-à-dire comme vient de le dire Amo. Vous vous retrouvez du jour au lendemain dans un monde où vous ne pouvez plus en sortir. C'est un petit peu comme si là, actuellement, vous êtes au centre des congrès à Nantes. C'est un petit peu comme si on vous disait, bah, vous êtes bloqué ici, il n'y aura pas de concours de cosplay après, vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes là.
Mais vous avez encore notre conférence.
Oui, il y a encore notre conférence. Non, la vraie différence, pour le coup, là, c'est une petite plaisanterie, mais la vraie différence entre Log Horizon et Sword Art Online, c'est que dans Log Horizon, il n'y a pas de grands méchants. Là, on parle dans Sword Art Online d'épopée. Au tout début, il faut aller au 100e niveau pour pouvoir sortir. Dans Log Horizon, les personnages sont placés dans un univers virtuel, dans un jeu vidéo, un MMORPG, mais ils ne savent pas pourquoi et ils n'ont aucune idée de comment en sortir et ils n'ont aucun indice. C'est-à-dire que rien ne vient leur dire, voilà, il faut faire ceci pour sortir de là. C'est à peu près la seule règle qui brise ce qu'on pourrait penser lorsqu'on pense règles de jeux vidéo. Mais pour vous donner une idée de ce qui changerait pour vous si vous vous retrouviez bloqué dans un monde comme celui de Log Horizon, par exemple, comme vous êtes un héros de jeu vidéo, vous êtes devenu un héros de jeu vidéo, la mort n'existe plus. C'est-à-dire si vous mourrez, vous revivez à l'église, tout simplement, et vous repartez, pas frais et dispo, mais voilà, vous ne subissez pas vraiment la mort. Il y a aussi d'autres choses, si vous ne pouvez plus revoir votre famille. Je suppose que si vous jouez au MMORPG, vous ne jouez pas avec vos parents, peut-être avec vos frères et sœurs. Il y a d'ailleurs un couple de frères et sœurs dans les personnages principaux de Log Horizon, mais voilà, vous ne jouez pas avec vos parents. Il y a également, la magie existe du coup, puisque vous pouvez devenir un magicien. Les niveaux que vous avez acquis dans un jeu, ils comptent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus... votre argent réel, l'argent qui est à cette réalité ne compte plus, c'est véritablement vos niveaux qui comptent. Et donc vous vous retrouvez dans un monde très particulier, vraiment, parce que même parfois un truc qui paraît évident dans la réalité n'est plus possible dans Sword Art, dans Log Horizon pour le coup.
Attention,
il ne faut pas que je confonde. Mais tout simplement, par exemple, vous ne pouvez pas faire la cuisine si vous n'êtes pas vous n'êtes pas un cuisinier dans le jeu. C'est ce genre de choses.
Oui, parce que la nourriture dans le jeu, par exemple, elle n'a pas de goût.
Voilà.
Parce que c'est un amas de données informatiques et ce n'est pas prévu pour...
Les héros comparent ça à du pain trempé dans l'eau, vous voyez, donc ça a autant de goût que ça. Du pain sec, vraiment. Et donc, Log Horizon est très intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier Sword Art Online en tant que bonne histoire d'aventure, mais Log Horizon vous invite plutôt à réfléchir à ce qui vous arriverait en tant que société si vous vous retrouverez bloqué là-dedans. Parce que plus que de survivre, puisque de toute façon vous devenez immortel, il va falloir que les héros inventent une nouvelle société. Et ils vont se retrouver à se poser des questions qui sont des questions qui sont imposables ou très difficilement posables dans notre réalité. Par exemple, des questions politiques. Par exemple, dans un jeu vidéo, si vous vous regroupez, est-ce que la démocratie reste le meilleur système ? Est-ce qu'il faut s'occuper, par exemple, des gens qui ont des difficultés à s'adapter ? Je vous ai parlé de la mort tout à l'heure ou du fait d'être bloqué ici. On peut se dire, je deviens immortel. Bah, c'est cool, je suis immortel, je peux vivre autant que je veux. Sauf que bah, pour des gens, ça les rend complètement fous parce qu'ils disent, il n'y a plus de fin. S'il n'y a plus de fin, il n'y a plus de début, donc est-ce que j'existe, etc. Et des personnages peuvent passer leur temps à se suicider dans le jeu volontairement afin de enfin trouver un jour la véritable mort. C'est ce genre de questions que amène à se poser cette œuvre et c'est véritablement très intéressant parce que la réalité virtuelle telle qu'on l'imagine, on pense toujours au fait est-ce que ça va être réaliste ou pas et on pense pas à ce qui se passerait si jamais nos vies complètes basculaient là-dedans. J'avais noté également d'autres choses j'avais résumé ça en les règles de jeux vidéo ce sont les nouvelles lois, mais il reste qu'entre ces deux réalités, entre la nôtre et celle du jeu, il y a des points communs, ils sont juste un petit peu différents. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années, voire même si on remonte au Moyen-Âge, les voyages initiatiques, c'était quelque chose qui pouvait se passer dans notre société. Dans un jeu vidéo, ça se résume à une quête, mais ça reste un voyage initiatique. Par exemple, il y a aussi les interactions avec d'autres peuples. Quand l'homme, les différentes civilisations se sont rencontrées...
Là, dans le cas de Log Horizon, ça va être les PNJ, par exemple.
Oui, il y a la civilisation des personnages non jouables qui ne pourront jamais avoir le statut d'immortel qu'ont les héros, mais qui n'ont pas non plus les niveaux d'expérience qu'acquéreront les héros. Donc on arrive à des notions de diplomatie. Il faut commencer à avoir de la diplomatie avec ces gens-là.
Tous ces PNJ qui existaient dans le jeu avant que les héros arrivent, en fait, eux, ils ont déjà une société qui est déjà bien formée, qui a déjà ses propres règles. Mmh. Et les héros vont arriver et vont quelque part venir complètement révolutionner l'ordre du monde tel qu'il était avant leur arrivée.
Tout à fait. Et il y a également l'économie, par exemple. Vous connaissez l'économie qui est actuellement dans ce monde-là, mais dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus simple. Vous sortez dehors, vous tuez un monstre, vous obtenez 3 pièces. Mais comment on monte une économie dans un système où l'argent peut s'obtenir aussi facilement ? Comment on règle les questions de propriété ? À qui appartiennent les terrains ? Ce genre de choses. Et c'est ces questions-là que cette série d'animation tente d'apporter une réponse, en tout cas tente d'apporter une narration, certes, parce qu'il reste une épopée derrière, mais on se pose plus la question à ce niveau-là. Et ça entraîne vraiment des tas de réflexions. Et voilà, c'est vraiment une série qui est très intéressante pour ça, parce qu'elle sort de la question de la réalité virtuelle en tant que pure virtualité, mais en tant que deuxième monde. C'est-à-dire, voilà, on est dans un autre monde, différentes règles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Voilà,
Surtout qu'au final, en plus, on aborde vraiment toutes les questions de société jusqu'aux arts. Voilà, on arrive dans un monde où, justement, ces personnages non joueurs, connaissent quelques musiques. Ils en connaissent 42 qui correspondent à toutes les musiques, qui correspondent à la bande originale du jeu. Ils n'en connaissent pas d'autres. Et donc, du coup, quand les nouveaux joueurs arrivent, donc quand les aventuriers arrivent, ils peuvent apporter avec eux tout leur ensemble de cultures. Et donc, voilà, donc du coup, c'est vraiment ça, un choc des cultures, comme on pourrait découvrir lors d'une colonisation.
Je vais terminer ma liste à la Prévert à ce niveau-là. Je vais juste dire, par exemple, dans ce monde-là, la notion de justice est complètement inexistante, par exemple. Donc il faut fonder également une justice avec des lois,
Ouais. Et là, dit comme ça, ça fait très, très justement animé d'analyse uniquement, mais en fait, c'est aussi un vrai animé d'aventure.
Oui.
Faut bien se rassurer là-dessus quand même.
Chaque
épisode, c'est pas 20 minutes sur le fonctionnement, l'économie interne de Horizon. C'est vraiment un jeu d'aventure avec un héros qui fait plein de plans machiavéliques pour s'en sortir, etc.
Ça reste très fun à regarder, mais voilà, ça a quand même beaucoup d'aspects à ce niveau-là. Mais du coup, on va pouvoir, si moi que vous ayez quelque chose à rajouter.
Très rapidement, pour Log Horizon, Log Horizon et SAO, les deux animés sont sortis plus ou moins dans le même laps de temps, donc on pourrait croire que l'un a plagié l'autre, mais pas vraiment, les deux sont assez différents. Log Horizon et SAO, les deux, le light novel sort en France, donc le SAO, les deux premiers tomes sont sortis, Log Horizon, le premier sort à la fin du mois chez Ophelbe, donc ça va être aussi très intéressant de les découvrir sous format livre, où évidemment tout est beaucoup plus détaillé par rapport aux animés qui évidemment doivent faire le choix d'être beaucoup plus simple d'accès pour tout le monde.
Oui. Oui, il faut préciser qu'on a tendance à concurrencer ces deux œuvres alors qu'en fait elles sont beaucoup plus complémentaires qu'on
ne
pense.
Le scénario, là, ouais, pareil, la première fois que j'ai vu Le Gorazan, j'ai fait, ah bah c'est bon, ils veulent un peu profiter de la vague SAO. Finalement, non, parce que les deux animés ont vraiment un propos et une histoire qui est très très différente.
Il faut pas mépriser l'un ou l'autre. En fait, ils sont vraiment très complémentaires.
Non, parce que
si vous avez aimé Sword Art Online, je pense que vous accrocherez pas forcément à Log Horizon, mais ça reste un complément très agréable à regarder.
Parce que sinon, dans ce champ-là, on détaillera pas aujourd'hui. Mais par exemple, on pense également à la franchise des Dot Hack, qui est sortie en 2002-2003, qui est une série d'animés, de jeux vidéo, etc., qui elle-même se passait dans un MMORPG nommé The World. C'est assez compliqué, puis c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément très connu, donc forcément, on développera pas beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, pour tout ce qui est monde virtuel et MMORPG.
Je vais juste terminer sur un truc, sur une phrase. On a parlé, tout à l'heure, tu as parlé sur la fin de SAO, où on s'en servait pour soigner les gens. Là, il faut quand même se rendre compte que dans Log Horizon, c'est l'impact, puisqu'on parle de psychologie, l'impact psychologique quand même sur les héros est énorme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en un claquement de doigts, on force votre réalité. Et c'est quand même quelque chose qui est assez puissant et c'est un arc narratif qui dure très longtemps. Voilà.
Donc voilà, on a passé pas mal de temps sur Log Horizon. Donc là, on va passer de la réalité virtuelle ou au moment où la réalité s'immisce dans le réel avec une série qui n'est pas forcément très connue mais qui est assez exceptionnelle, qui est Denno Coil. Qui est une série de 2007.
Alors là, voilà, on a eu deux cas vraiment de personnes qui sont projetées dans d'autres univers. Dans Denno Coil, on reste vraiment dans notre monde. C'est vraiment une bande de gamins qui vivent dans la banlieue Tokyo 8. Donc vraiment quelque chose auquel n'importe qui en fait peut aller limite visiter la ville, qui a servi d'inspiration à l'œuvre, la ville où vivent les gamins. Et la spécificité de Denno Coil, c'est qu'en fait, ils ont des lunettes et ces lunettes leur permettent de voir des choses en plus. Donc le principe de la réalité augmentée. Et ce qu'ils voient, c'est qu'ils peuvent voir des objets qui n'existent pas en temps réel, qui n'existent pas en temps normal.
Le premier exemple qu'on voit dans la série, c'est le chien.
C'est le chien, voilà.
La famille, par exemple, a un chien qui est virtuel.
L'héroïne a un chien qui est virtuel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les lunettes, personne ne peut ni voir ni toucher ce chien. C'est vraiment un chien qui existe que dans une réalité augmentée. Et du coup, les enfants vont s'inventer tout un système de jeu à partir de ces lunettes, avec des objets un petit peu brillants, qui vont ramasser, qui ont de la valeur, qui vont s'échanger entre eux, qui vont revendre, qui peuvent échanger contre d'autres objets qui eux-mêmes ne suivent que dans cette réalité augmentée. Donc il y a vraiment tout un système de jeux d'enfants qui ont vraiment leur propre monde, leurs propres règles. Et au fur et à mesure, la série va partir de ce postulat puis va commencer à poser quelques questions. Du coup, si ça existe qu'en virtuel, est-ce que ça existe vraiment ? À quel moment on arrête la réalité ? À quel moment on rentre dans le virtuel ? Qu'est-ce qui est vraiment tangible, qu'est-ce qui ne l'est plus. Le chien qui apprécie énormément l'héroïne, si jamais il meurt, est-ce qu'il faut vraiment être triste parce que c'est un chien auquel l'héroïne s'est énormément attachée et du coup dans ce cas-là oui on peut être triste parce que c'est comme un animal de compagnie qui meurt, ou est-ce que non, c'est quelque chose d'entièrement virtuel, il n'y a pas de traces physiques, c'est comme si c'était des données, comme vous supprimez un dossier sur votre ordinateur, en fait supprimer, vous versez pas une petite larme à chaque fois que vous supprimez un dossier, enfin j'espère.
Ah, ça dépend du dossier. Hein.
Ça dépend du dossier.
Les dossiers,
bien
je regrette de les avoir supprimés quand même. Hein.
Mais du coup, la série va s'interroger sur ces questions-là et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va prendre à la fois le point de vue des enfants et des parents. Je veux dire, je vois dans la salle des personnes qui sont en âge d'être des parents. La série va aussi faire, comment les parents vont réagir à cet univers dans lequel, en fait, ils peuvent pas rentrer, ils ont pas de prise. Parce que eux, ils portent pas ces lunettes, ils voient pas ce que leurs enfants voient, ils réussissent pas à comprendre ce que leurs enfants vivent. Et la série va se poser, toutes ces questions et va continuer au fur et à mesure et va finalement arriver au point où elle va se dire, les enfants, ils voient des choses qui sont pas visibles normalement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de voir des choses qui n'existent plus dans la réalité, comme par exemple des êtres qui sont morts? Est-ce que ce ne serait pas possible de réussir à les retrouver dans cette réalité augmentée-là, dans quelque part cet autre univers qui vient se superposer au nôtre? Et est-ce que il n'y a pas moyen de réussir à dire au revoir à un être aimé qui est parti trop tôt?
C'est vrai que c'est assez surprenant parce que tu vois le design de la série, tu dis ah c'est mignon, c'est coloré, c'est sympa. Finalement, il part vite d'acceptation de la mort ou des choses comme ça. Tu fais oh.
La série devient assez rapidement très 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 sérieuse. On part vraiment d'enfants qui en quelque part cherchent un petit peu leur place. Ils sont dans cette réalité augmentée, ils sont un peu les maîtres du monde. Hein,
c'est un peu leur truc.
Donc, quand t'as 10 ans, t'es pas trop le maître du monde dans la vie réelle. Hein.
Sauf dans un train.
Voilà. On est tous passés par là. On avait tous vraiment envie de pouvoir contrôler un petit peu quelque chose quand on était gamin. Les adultes nous disaient non, tu vas pas faire ça. Et du coup, là, dans cette réalité augmentée, ils ont vraiment l'occasion ici d'avoir leurs propres règles, de pouvoir vivre un peu comme ils l'entendent, avec tout ce que ça implique aussi, toutes les rencontres qu'ils vont faire, ces rencontres avec des gens qui vivent quelque part un peu dans le virtuel, est-ce que c'est vraiment des rencontres réelles ou pas? Et la série va vraiment poser toutes ces questions sans jamais en fait donner de réponse. La série dira jamais oui ce que les enfants voient, faut considérer que c'est réel, ou non ce que les enfants voient, c'est pas réel, c'est que des choses qu'ils voient à travers des lunettes, c'est que du numérique. La série va vraiment laisser au spectateur son propre choix pour pouvoir se faire sa propre réponse sur cette réalité augmentée.
Mais justement, on peut voir ça un petit peu comme des enfants qui joueraient notamment avec des jeux de construction, donc des Lego ou autres, qui s'imagineraient tout un univers avec des briques colorées et qui du coup s'imagineraient des personnages qui vivraient dedans, etc. Mais justement, on peut faire un parallèle du coup avec ce qu'on peut voir, les lunettes de réalité augmentée qui existent, donc par exemple HoloLens qui a été montré par Microsoft, où justement on peut jouer à Minecraft notamment dedans, on peut donc voir toutes ces briques qui s'empilent.
Mais après, là, c'est bien mieux fait hein, dans la nuit.
Voilà, mais dès qu'on retire les lunettes, voilà, ces briques ne sont plus là, ces briques n'existent plus. Mais voilà, comme tu le disais bien, The Knuckles, c'est une série qui joue beaucoup sur l'empathie, sur la question de l'empathie qu'on peut avoir justement envers ces éléments virtuels, ces éléments qui sont pas vraiment imaginaires, qui ont une existence qui n'est que numérique, mais qui ont une existence tout de même. Et du coup, voilà, la justificabilité des sentiments envers ces éléments numériques est posée.
Et puis, c'est quand même ce petit univers, etc., où les enfants passent leur temps à se faire des crasses par coup de trucs électroniques.
C'est des enfants, quoi.
Ouais, quand leurs lunettes sont détériorées, ils doivent payer le montant de la réparation des lunettes et ils comptent les paiements en nombre.
Donc, d'étrennes de Noël. Ouais.
Donc genre ça va me coûter deux étrennes de Noël ce qui vient d'arriver ou chose comme ça. Donc il y a une sorte de petits enjeux comme ça où quand même il faut pas qu'ils fassent trop les idiots avec leurs lunettes. C'est assez rigolo. Donc ça c'est encore une fois, ça, il y a des thèmes qui sont assez lourds, mais ça reste une série qui est assez rigolote à regarder, mais qui hélas, là on vous parle de quelque chose qui est pas disponible en France du tout. Donc ça reste comme une série que si vous pouvez l'avoir d'une façon ou d'une autre, c'est assez intéressant, sachant que ça a été réalisé par Mitsuo Iso qui a travaillé chez Ghibli par exemple. Il a travaillé en tant qu'animateur clé, je crois, sur Porco Rosso. Et ça a été diffusé sur la chaîne éducation de la NHK, c'est-à-dire la principale chaîne publique, je crois, japonaise.
Ouais, c'est une des principales chaînes publiques. Enfin, c'est la principale chaîne publique qui ne soit pas que de l'information.
Donc, on a fait un peu le tour pour The Knuckles. C'est vraiment une très très bonne série, mais qui, hélas, en France, on a ce petit problème de disponibilité. Par contre, on va remonter un petit peu plus loin dans le temps dans une série qui a très bien marqué son temps en France, particulièrement, c'est Serial Experiment Slain en 1998, l'année évidemment de la victoire de la France à la Coupe du Monde, rappelons-le.
Voilà, donc certains se rappellent de la Coupe du Monde, alors là, ça va pas du tout être le cas, on va même pas parler de foot, je suis vraiment désolé. Mais voilà, donc Serial Experiment Slain, donc série de 98 qui a été réalisée par Yutaro Nakamura. Donc la série est disponible chez nous, elle a été diffusée notamment sur Canal pendant sur le créneau La Case, si je me rappelle bien.
Plutôt vers
Canal en tout cas.
Plutôt vers 2000, ils avaient fait un mois spécial animation japonaise en juin 2000, je crois, vous avez passé Jinro, Perfect Blue, pas mal de grands films comme ça.
Il l'avait un peu diffusé en mode on le diffuse parce que
ça passait à 18h30.
Et ça passait aussi le soir très tard aussi, c'était assez amusant en rediffusion.
Moi je le voyais à 18h30 et je te dis que je comprenais pas grand-chose quand j'avais 10 ans quoi. Donc ouais, parce que c'est une série, tu vas tenter de nous expliquer le scénario, mais
je vais tenter parce que Serial Experiment Slain, c'est une série qui ne fait que 13 épisodes, mais une série qui est finalement très dense, non seulement de par les informations qu'elle diffuse, de par la densité de son univers et par aussi la densité des termes qu'elle aborde. Mais donc voilà, pour faire simple, dans Serial Experiment Slain, on va suivre du coup le, pas vraiment le quotidien, mais en gros la vie d'une jeune adolescente de 14 ans, Lane, qui à la suite du décès d'une camarade de classe va recevoir un mail de cette camarade décédée, alors que c'est pas censé être possible évidemment. Et à partir de là, elle va justement commencer à s'intéresser à Internet et à qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet, etc. Jusque-là, elle a seulement un ordinateur pour enfants qui lui permet pas de faire grand-chose, donc un VTEC, si jamais vous avez déjà eu ça quand vous étiez enfant.
VTEC, ouais.
Voilà, un petit VTEC tout coloré. Et du coup, elle demandait à son papa, j'ai envie d'avoir un PC plus puissant, je veux aller sur Internet qui s'appelle ici le Wired.
Qui n'est pas du tout l'Internet qu'on connaît nous-mêmes.
Voilà, alors, déjà, rien que là, l'ambiance est posée, quoi.
Donc à partir de là, l'ambiance est posée, parce que voilà, on part directement sur un postulat, de décès de quelqu'un.
La première scène, effectivement, c'est une scène de suicide. Donc,
la première scène, c'est justement le suicide de cette camarade de classe. Mais, ici, Lane est un personnage déjà très particulier, puisqu'elle est très introvertie. On voit qu'elle parle pas beaucoup à ses camarades de classe. L'ambiance à la maison est plutôt pesante. Elle parle pas trop à ses parents, elle parle pas trop à sa sœur. Donc voilà, elle se renferme elle-même dans son propre monde. Elle porte voilà donc un pyjama ours, voilà donc qui à la fois est très
voilà,
est plutôt signe d'enfance.
Pas, c'est ça, les signes d'enfance, mais aussi l'ours. Comme
voilà, alors que l'ours qui voilà donc on sait dans la vie réelle plutôt un ours, bah c'est pas trop pour les enfants, vaut mieux pas trop jouer avec.
C'est, voilà, c'est oui.
C'est très très bonne remarque, je pense que c'est un très bon conseil. Hein.
Non, oui, voilà. Les enfants, si vous voyez un ours dans la rue, allez pas jouer avec. Hein.
Voilà, s'il y a un cosplay ours, vous pouvez, mais un vrai ours, non.
Évitez d'aller le chatouiller. Et donc, ouais, donc elle va essayer d'accéder au Wired. La comparaison avec le Wired et l'Internet est assez intéressante, puisque le Wired est vraiment défini comme étant un réseau d'informations, un réseau dans lequel ne fait que transiter de l'information. On sait que des enfants jouent à des jeux vidéo, ce qu'on va appeler des jeux vidéo là-dessus. Voilà. Le principal intérêt du Wired, c'est la communication d'informations. Et justement, au fur et à mesure que Lane va accéder au Wired, va commencer à le découvrir, on va aussi pouvoir découvrir différentes personnalités de Lane qui vont émerger, jusqu'à 3 personnalités. Donc c'est à partir de là que la série commence vraiment à devenir un peu plus compliquée. Sachant que j'aborde même pas 10% de la densité de la série. Mais notamment sur Internet, donc sur le Wired, pardon, on va pouvoir découvrir une personnalité où elle va être totalement une déesse de cet univers. Elle va avoir le plein contrôle.
Oui, elle va se rendre compte que des gens la connaissent déjà sur Internet et la vénèrent déjà un peu comme une figure un peu messianique. Quoi.
C'est ça. C'est carrément ça. Elle est totalement le messie de cet univers. On découvre qu'elle a une personnalité qui n'est au contraire pas très renfermée, mais elle est totalement sûre d'elle. Elle est assez machiavélique. Elle peut aller jusqu'à manipuler
la vie des
gens. On va
terminer avec 3 lanes en tout. Ouais.
Voilà. Et il y a une troisième lane qui, elle, a toujours le même caractère, entre guillemets, introverti, seulement dans son sentiment. Elle pense beaucoup choses, et après elle va essayer d'être plus extravertie, d'être plus sûre d'elle, pour pouvoir parler notamment avec des adultes, pouvoir exprimer son opinion, mais c'est seulement avec une façade, et ça c'est la personnalité qu'elle retrouve et qu'elle peut également contrôler.
Oui, je voulais juste dire, en fait, ça rejoint la notion d'avatar, etc. On parlait d'enfermement dans les MMO où on devient un personnage, son propre personnage. Lane devient un personnage qu'elle n'est pas, plusieurs personnalités. Il y a la personnalité qu'on a dans la vie réelle, et le personnage que l'on devient dans les mondes virtuels qu'on rejoint.
Sachant que petit à petit, on se rend compte que cette frontière entre le Wired et sa vraie vie commence petit à petit à s'effriter quand justement des pans de ces personnalités qu'elle a sur le Wired commencent à se rejoindre sur la personne qu'elle est dans le vrai monde. De la réalité véritable.
Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le Wired, en fait, il s'immisce aussi. Il n'est pas uniquement sur les ordinateurs, en fait, il est quasiment dans l'air. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu utilises un peu trop le Wired, tu commences vraiment à le capter un peu n'importe où dans ta psyché, dans ton inconscient, et ça commence à faire des dégâts.
Exactement. Et justement, petit à petit, donc on se rend compte que vraiment tout le monde est connecté. C'est une phrase qui va très vite revenir après. Tout le monde est connecté. Parce que le Wired est destiné à être non pas seulement un Internet auquel on accède par une interface physique qu'on peut l'avoir, vous, sur votre smartphone ou autre, mais auquel on est connecté inconsciemment et de manière perpétuelle. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en dehors de sa capacité d'être une déesse dans le Wired, Lane va également pouvoir être une déesse dans la vie réelle. Parce que justement, toutes les actions qu'elle va avoir dans le Wired pourront influencer d'une manière ou d'une autre la vie réelle. Et donc voilà, on va se poser les questions justement sur son statut divin, sur sa personnalité. Justement, il y a des fois, elle se retrouve totalement perdue, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait plus exactement ce qu'elle doit penser. Et là, je te laisse la parole une seconde, Nemo. Et justement, la première question qui est posée par le Wired, donc par le biais de sa machine à Lane, c'est: qui es-tu? Donc elle doit dire je suis Lane, c'est pour juste une authentification, mais c'est tout de même la première question qui est posée, puisqu'elle est réellement au cœur de la série.
Je voulais juste rajouter que toute cette réflexion autour du Wired, donc l'internet de la série et des différentes personnalités, avait été quand même posée en 98. C'est ça qui est,
c'est ça qui est intéressant.
C'est assez dingue. En fait,
c'est assez intéressant parce que l'écrivain de la série, Shaki Konaka, justement voulait faire une série qui soit un peu d'anticipation. Il voulait surtout une série. Il disait dans ses mots, dans une interview, il a dit: je voulais une nouvelle guerre mondiale entre les États-Unis et le Japon. C'est-à-dire une nouvelle guerre mondiale d'opinion. C'est-à-dire qu'il voulait une série où il voulait être sûr que le Japon et les États-Unis, c'est-à-dire le public occidental et le public japonais, n'aient absolument pas la même interprétation.
Et ça a été complètement raté.
Ça a été complètement raté. Il était dégoûté parce que finalement, il s'est rendu compte que les Japonais et les États-Unis avaient plus ou moins les mêmes théories. Sachant que Lane est une série où on théorise beaucoup parce que c'est une série qui est très cryptique, très planante. Tu vois beaucoup d'images sans forcément t'expliciter les sens derrière. Donc c'est une série qui est très, qui te prend au trip, quoi, qui te prend vraiment de manière très émotionnelle. Mais
c'est en plus une série qui est un peu cryptique malgré elle, parce qu'à la base, ça devait être une licence transmédia. Il devait y avoir 3 œuvres différentes sur 3 supports différents. Et au final, il n'y a que l'animé qui existe. Du coup, en fait,
le jeu vidéo existe.
Le jeu vidéo, ouais, mais
il n'est pas sorti du Japon.
Le jeu vidéo existe qu'au Japon, mais apparemment, même là, je veux dire, il a été fini dans des conditions un peu chaotiques.
Sur PlayStation, ouais.
Et du coup, il n'y a même pas moyen, en fait, d'avoir toutes les réponses auxquelles les gens avaient pensé à la base.
mais donc du coup j'allais plutôt assez vite sur la fin. C'est pas une des conclusions qui est lancée, mais c'est partie des nombreuses pistes qui sont lancées pendant la série. Notamment, voilà, un point qui est donné entre guillemets en conclusion de la série, c'est qu'au final, la personnalité que l'on peut avoir sur le Wired, donc voilà, donc sur Internet dans un monde virtuel, et ce qu'on peut avoir dans la vraie vie, au final, c'est assez proche. Au final, les personnalités qu'elle aborde dans le Wired ne sont que des parties qui sont déjà à l'intérieur d'elle-même, qu'elle n'a pas forcément réussi à exprimer à cause de son contexte social, dans sa famille, etc. Mais justement, confrontée à ce monde virtuel, elle a pu aller de l'avant. Donc certes, après il y a toute une question sur l'origine de Lane, le personnage, d'où il vient, etc. Mais même en dehors de cela, c'est quand même avant tout l'histoire d'une adolescente en quête de personnalité qui se retrouve sur Internet. Et je trouve que c'est assez d'actualité au final.
Ouais, c'est ça. Donc Lane, c'est vraiment une série très intéressante, qui n'est pas toujours facile à regarder. C'est pas une série très plaisante, très divertissante. Mais c'est vraiment une série qui nourrit le cerveau. Et on va rester plus ou moins dans cette époque et plus ou moins dans des ambiances similaires, évidemment, avec Ghost in the Shell. On est au milieu des années 90. Je vois les visages des gens qui remontent le visage, genre, oh, ça y est, on a parlé de Ghost in the Shell. C'est vrai qu'on a eu le 2 qui a été diffusé ce matin, et je crois dans la compétition internationale, il y avait Arise qui est la nouvelle version du film de l'univers. Donc c'est un univers qui est toujours très actif. Là, donc à la base, ça a commencé par un manga toujours de Mamoru Oshii, qu'il a ensuite adapté plus ou moins, on va en parler un peu rapidement tout à l'heure, en animé. Puis ensuite, c'est devenu une série télévisée nommée Standalone Complex. Puis ensuite, une série de films, les films Arise, qui sont sortis récemment. Mais là, on va vraiment s'occuper uniquement du film de 1995. Parce que c'est assez intéressant d'en parler tout de même. Donc voilà, c'est un film de 95, donc dirigé par Mamoru Oshii, et on est dans un futur à plus ou moins pas vraiment d'âge donné dans le film. C'est un film qui, comme Lane, est très planant, avec pas mal de plans assez longs en musique, etc. C'est pas forcément une vision qui est là aussi et très divertissante. C'est pas du tout un divertissement. Il y a des grandes scènes d'action, mais t'es pas là pour ça. C'est vraiment une série qui va te poser plein de trucs. C'est beaucoup plus explicite que Lane. Là, vraiment, ça te laisse un peu moins dans le flou à la fin. T'as encore quelques questions, mais si tu remates le film, tu peux quand même trouver tes réponses que tu cherchais à la fin. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a une héroïne qui est Makoto Kusanagi, qui est une humaine. On pense que c'est une humaine à la base, mais on a une époque où le transhumanisme, c'est-à-dire l'implantation de les cyborgs, les androïdes, etc., sont quelque chose de vraiment assez commun. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est assez pas rare d'avoir des corps modifiés de partout, d'avoir le cerveau complètement modifié. Là, le truc de base, par exemple, c'est que des mémoires sont tout simplement stockées dans des serveurs informatiques. Ils peuvent être tout simplement injectés en toi pour que tu puisses les récupérer sans problème, et ça devient soudainement ta personnalité. Au bout d'une demi-heure de film, Makoto se pose la question, mais à partir de quel moment, est-ce qu'on est toujours humain? Est-ce que ma mémoire, je suis vraiment sûr que c'est la mienne? Parce que c'est pas rare d'avoir des gens où leur mémoire a été complètement trafiquée. Par exemple, au bout de 15 minutes de film, on rencontre un éboueur qui est convaincu qu'à la maison attend sa femme et sa fille. Et en fait, il vit complètement seul, mais c'est juste qu'on l'a complètement modifié ses mémoires pour qu'il puisse faire des crimes sans s'en rendre compte. Donc c'est toujours un peu bizarre, on sait pas forcément trop à quoi se fier, on sait pas trop finalement qui est qui. Et dans tout ça, on suit donc Makoto, et puis sur le fameux secteur 9, qui est une partie du Japon, partie officielle du Japon. C'est un organisme qui aide plus ou moins à réguler, à regarder plus ou moins les crimes liés au transhumanisme, aux modifications, etc. Et dans tout ça se trouve un mystérieux puppet master qui est une intelligence artificielle devenue tellement évoluée qu'elle veut devenir humaine. C'est-à-dire qu'elle veut qu'on reconnaisse ses droits d'humain. Et à partir de là, certains au Japon sont pas vraiment pour qu'on le reconnaisse en tant qu'humain, parce que ça poserait des problèmes assez énormes. Et le film va donc être cette histoire entre Makoto, le Puppet Master, et le reste du secteur 9. Donc c'est un film qui est vraiment extrêmement intéressant, très planant. Mais là, on sait pas trop si c'est de la réalité virtuelle ou si c'est vraiment le virtuel qui devient une réalité concrète. On sait plus si l'informatique devient le quotidien. On est dans un monde, là vraiment, on est un peu dans la succession d'Akira, avec un futur proche, mais pas forcément réaliste. On est dans une vision du futur tel qu'il le voyait dans les années 90, c'est-à-dire que l'Internet, c'est des gros câbles qui sont partout. Si tu veux changer de données, c'est avec des grosses CD, des grosses disquettes. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien, mais ça reste quand même assez moderne. Quand ils veulent se connecter à Internet, certains transhumains se mettent tout dans le cou. C'est d'ailleurs là où les frères Wachowski, pour Matrix, se sont inspirés de la connexion dans le cou pour l'entrée dans la matrice. Ils ont plus ou moins assumé le fait que ça venait de Ghost in the Shell, qui est une de leurs principales inspirations pour la trilogie Matrix. Donc voilà, c'est vraiment une vision extrêmement intéressante, et là on est dans le sujet sans être vraiment dans le sujet, c'est assez flou.
Bah, ça reste un marqueur en France quand même. Ghost in the Shell avec Akira, ça reste deux grandes œuvres qui sont très connues en France, qui ont bénéficié de sorties différentes, de plusieurs sorties en DVD, en Blu-ray, je crois notamment pour Akira.
Ouais, un petit peu tout.
Voilà. Mais oui.
Et Ghost in the Shell reste quand même cette première série où vraiment le thème réel, virtuel, où s'arrête l'un, où commence l'autre, c'est vraiment la première série dans l'animation japonaise qui a vraiment se concentré là-dessus. Jusqu'à présent, c'était vraiment des séries de science-fiction qui se passent souvent dans l'espace avec des gros robots qui se tapent dessus. Des choses qui vraiment qui se posaient pas forcément beaucoup de questions, qui venaient pas s'intéresser à différents niveaux de réalité. Et Ghost in the Shell va vraiment rajouter ce niveau-là, va vraiment rajouter toutes ces questions autour du virtuel. Et c'est vraiment en fait ça va lancer quelque part, ça va permettre à d'autres séries d'exister, à d'autres séries de continuer sur cette voie-là. Mais même si voilà, comme dit Amo, c'est pas vraiment une vraie réalité virtuelle ou une vraie réalité augmentée comme on a pu vous parler jusqu'à présent, ça reste la première série qui vient vraiment poser des questions sur la réalité telle qu'on la connaît.
Voilà, via l'humain augmenté par la machine, on commence à se poser la question des frontières justement entre ce qui doit être considéré comme réel, comme humain aussi non, et comme ce qui doit être considéré juste comme étant fictif, qui doit rester à ce stade purement virtuel.
Ça reste un film plutôt court d'une heure vingt, très très beau. Il a été refait récemment une version 2.0 qui fait assez polémique, oui. Parce qu'ils mettent pas mal de 3D, ils refont quelques scènes qui sont pas forcément bien reçues. Mais dans tous les cas, ça a une vision très intéressante, très courte. Ghost in the Shell Innocence va dans d'autres thèmes complètement différents. Il reste sur le même sujet, mais va le développer d'une manière complètement différente au premier film. C'est assez intéressant. La saga en elle-même, standalone complexe aussi, pose pas mal de questions. Et tant qu'on va rester dans les films, on va retourner plus près de nous pour la dernière œuvre qu'on va vraiment évoquer aujourd'hui.
Ouais,
c'est Summer Wars.
Ouais, alors juste pour terminer sur Ghost in the Shell, la preuve que c'est un bon film, il est déjà passé aux Utopiales. Donc on va parler donc de Summer Wars, là on va revenir parce que bon pour l'instant sur toutes les œuvres on est parti des plus récentes qui considèrent les mondes virtuels, les réalités virtuelles pardon, comme des choses des éléments scénaristiques et on est remonté dans le temps, on a refait l'inverse en fait. On est aux Utopiales, on a le droit. On est remonté dans le temps jusqu'à revenir au concept de virtualité, mais là on va revenir sur quelque chose qui est une œuvre plus pensé pour le grand public, et Summer Wars donc a été réalisé par Mamoru Hosoda qui est connu notamment pour Les Enfants Loups,
La Traversée du Temps
et qui va donc
Garçon et la Bête en janvier,
voilà, qui sort en janvier. Donc Summer Wars, c'est une description du virtuel. C'est pour Summer Wars, on va dire l'histoire est assez simple. C'est un jeune homme qui travaille pour un service qui s'appelle Oz, qui est une sorte de super Facebook du futur.
Oui, c'est un méga Facebook.
Il y a de tout dedans.
C'est du big data du futur.
Voilà, c'est-à-dire où tout le monde a son avatar dans ce monde très coloré où tout le monde est représenté. Et ça va même assez loin puisque même les services publics sont sur ce réseau social. On peut contrôler les feux rouges, les pompiers, etc.
C'est ça. Toute la logistique, toute la voirie est contrôlée à partir d'Oz.
Voilà. Tout est numérisé.
Que peut-il mal se passer?
On peut même y continuer à y payer ses impôts sans doute. Mais donc dans Summer Wars, le principe c'est que le héros va se retrouver dans une réunion familiale de la fille dont il est amoureuse, mais une nuit il va recevoir un problème mathématique qu'il va résoudre et envoyer la réponse sur Oz, et ça va commencer à mettre un virus dans une IA qui va causer beaucoup de problèmes puisque comme on l'a dit tout est relié à Oz, et le film va partir à la fin, on part dans un grand délire où comme dans Yu-Gi-Oh, un jeu de cartes va finir par sauver le monde.
Et c'est le mélange entre.
Voilà, c'est un mélange entre Facebook et Yu-Gi-Oh, on va dire. Mais non, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, beaucoup plus complexe et surtout beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire que c'est une œuvre dont le récit est très académique, mais dont les enjeux sont très modernes, disons, mais beaucoup plus contemporains que ce qu'on a pu.
Sur la fin, l'IA peut maîtriser des missiles, quoi. Donc
voilà, c'est-à-dire qu'il y a un missile qui arrive quand même. Hein. Donc ça, c'est très concret pour le coup.
C'est une œuvre qui est quand même très très proche de nous parce qu'au final. Ce qui est dépeint dans Oz avec vraiment le tout qui est interconnecté, c'est quelque chose qui est de plus en plus à l'heure actuelle. Je veux dire, vous sortez votre smartphone de votre poche, vous êtes connecté au monde entier. Vous rajoutez un avatar mignon et des couleurs, vous avez pratiquement Oz, quoi. Bon, après, vous pouvez pas contrôler les feux rouges.
Il faut juste avoir le mot de passe de la salle des congrès.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Mais surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on est vraiment dans un cas où l'accès au monde virtuel est là pour tout le monde aussi. Dans Dinocoil, c'était vraiment, comme on l'a vu, entre guillemets, quasiment que pour les enfants. Là, aujourd'hui, peut-être que vos parents sont sur Facebook, peut-être que vos grands-parents sont sur Facebook.
On peut même faire un sondage tout bête. Qui avait déjà entendu parler ou regardé Summer Wars dans le public? Vous voyez,
quand même, il y a tout le monde.
C'est bien.
Mais voilà, donc aussi bien, voilà, donc dans, il y a peut-être des gens qui ont donc, voilà, leurs parents, voire même leurs grands-parents sur Facebook. Là ici, on est dans Oz, donc dans Summer Wars. Et là ici, on a également chaque individu qui a son avatar, qui a son existence dans Oz. Et donc c'est un vraiment une réalité virtuelle qui est accessible à tous et telle qu'on l'a maintenant aujourd'hui. Et ce qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu encore auparavant. Soit c'était imposé à tous ceux qui s'y retrouvaient, soit c'était seulement pour des choisis comme les enfants qui trouvaient ici un moyen de s'amuser. Là, on est vraiment dans ce qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que c'est intéressant d'en parler.
Bah, tous les personnages de Summer Wars ont un personnage sur Oz et à la fin, ça joue un rôle important dans le scénario. Parce que tous les personnages, toute la famille, qui est une famille gigantesque, hein, c'est du genre 30, 40, 50 membres dans cette famille qui se retrouvent là uniquement pour cette réunion au plein milieu de la maison de la mémé. Même la mémé de 90, 95 ans, qui tu penses c'est la tradition et tout, non, elle a aussi son avatar Oz, etc. et elle s'en sert pas mal. Et du coup, non, c'est vraiment un film qui va donc parler à la fois du virtuel puis aussi également du concept de la famille, etc., ce qui est vraiment assez intéressant. Et en même temps, Osoda s'est aussi pas mal inspiré de Digimon Boku no Wargame, qui était un film Digimon qu'il avait lui-même réalisé et qui avait des thèmes assez similaires pour la façon de dépeindre le cyberespace. Et Digimon également une série dont on n'a pas parlé mais qui aurait très bien pu en parler parce que Digimon il part dans un monde virtuel également.
Mais pour en revenir à Oz, peut-être montrer une image puisqu'on
on a une image derrière. Oz ressemble à ça. C'est très coloré, c'est très mignon.
Et du
ça
coup bah voilà,
ça donne envie, non?
ça termine justement notre conférence. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Levez la main. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous apporter un micro.
On a deux personnes au premier rang.
Deux personnes pour l'instant.
Quelqu'un un micro à porter.
Si j'ose dire, il y a deux personnes qui osent.
Oui, c'est bon, on a quelqu'un qui nous apporte un micro. C'est super cool. La technique
du Il y a quelqu'un qui vient par l'autre côté pour apporter un micro. Restez votre main levée.
Il y a quelqu'un ici, quelqu'un là-bas.
On va commencer au milieu.
Très bien.
On t'a vu.
Pas de soucis.
Bonjour. Merci. Bonjour, Benjamin Benoît, lemonde.fr, aussi votre petit malin favori et accessoirement votre ancien vice-président.
La private joke, elle est belle.
Oui, vous nous parlez d'une relation relativement émergente du virtuel qui se confronte aux mécanismes de virtualité occidentale, notamment l'immersion, vous savez, la fameuse suspension consentie, tout ça. C'était de l'alternatif, pas vraiment du virtuel. Et donc là, vous nous parlez du virtuel comme une autre forme d'immersion où le réel et le virtuel ont un rapport totalement différent, donc on change d'équation. Donc, pour prendre les choses à l'envers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du réel dans ces références?
Le réel, en tout cas pour moi, il y a une phrase de Shibugi qui dit que le réel, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. Le réel, par exemple, pour revenir à Log Horizon, le réel, on pourrait dire que c'est un petit peu ce qui reste en commun entre les deux mondes. Parce que j'ai parlé en fait d'une adaptation, mais c'est exactement ça. Tu t'adaptes au monde, au nouveau monde, mais il y a des réflexes sociétaux qui restent. Et pour moi, c'est un peu ça la leçon. C'est ce qu'il y a en commun, c'est un petit peu ce qui définit le réel, mais même plus que ça, même une certaine définition de l'humanité, je dirais.
Voilà, les personnages, quand ils sont dans d'autres univers, vont vraiment se recréer en fait leur propre société. Quelque chose qui est vraiment très très réel, hein, que ce soit Denocol, que ce soit Log Horizon, alors beaucoup moins dans Sword Art Online, parce que c'est vraiment centré sur l'aventure, sur un personnage en particulier. Mais dès que c'est des séries qui se passe dans un monde virtuel ou dans une réalité augmentée avec un certain nombre de personnages, ils vont recréer une société qui peut ressembler à celle qu'on a à l'heure actuelle ou une société qui soit relativement différente, mais ils vont vraiment rechercher à nouveau à recréer, même sans forcément le vouloir, une forme de société.
Moi personnellement, donc peut-être que ça fait un petit peu redondance, mais je dirais que dans ces œuvres, ce qu'on retrouve en commun, le réel, c'est pas forcément quelque chose de matériel, ce sera plutôt justement soit des valeurs, soit surtout des personnalités, parce que c'est au final ce qu'on retrouve de plus vrai dans la série, ce sont des personnages qu'il y a, et du coup, c'est ce qui est de réel, c'est eux-mêmes, pas forcément leur existence matérielle, physique, mais juste leur existence.
L'être
mental, moral. Voilà, l'être, c'est peut-être ce qu'il y a de plus de réel.
Donc, avec ses sentiments.
Donc c'est un peu le même paradigme que pour l'Occident finalement.
C'est exactement ce qu'on va voir dans Lain justement.
Ouais. Super. Merci, namasté.
Merci à toi.
Vous avez une question,
il y a une personne juste là.
Il y a des questions.
Excuse-moi, il y avait
une personne. On aimerait que la personne ici.
La personne qui lève.
Il y avait une personne qui levait la main ici depuis tout à l'heure.
Il y aura juste après.
Tu passeras vraiment, vraiment après.
Est-ce que dans les mondes virtuels, ça fait quoi si on introduisait quelque chose d'un monde virtuel sur le monde réel? Ça serait quoi?
La réalité augmentée.
Oui, mais si on... Mais imaginons si on faisait
Il y aurait uniquement
un MMORPG virtuel façon d'horreur, comme façon Walking Dead ou Harry.
Tu veux dire un monde, par exemple un jeu vidéo où ton corps serait transporté à l'intérieur, un monde connexion là, tu aurais plus vraiment
façon jeu d'horreur.
Un monde jeu d'horreur.
Ouais, un jeu virtuel d'horreur.
Ça me reste sans doute d'autres questions qui seraient directement liées à la personnalité des personnes qui y sont. Justement, comment ils sont confrontés à l'horreur et justement si jamais la tolérance qu'ils ont à ces mondes horrifiques, une fois qu'ils ont l'impression que c'est réel, est-ce que cela va les garder sains ou pas? Je pense que ce serait la première question qui serait posée.
Je pense que basiquement, si tu mets quelqu'un dans une fiction d'horreur, comme ce sont des récits où l'homme est confronté à des dangers absolument terrifiants, puisque c'est le but, il mourrait tout simplement. Beaucoup mourraient tout simplement.
Ouais, comme.
Les jeux de santé mentale, ça dure pas très longtemps, hein, souvent.
Je pense qu'il serait vite mis dans ses derniers retranchements. Voilà. Merci.
Alors, à voir passer à la personne qui était juste au premier rang.
Bonjour.
Bonjour.
Dans la deuxième œuvre, je ne sais plus comment elle s'appelait.
Log Horizon.
Log Horizon.
Voilà. Vous parliez de recréer une société. Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer une nouvelle société quand on est déjà habitué à une société?
Disons que c'est possible parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est simplement.
Ouais, mais au final, ils gardent quand même une société qui est assez proche en fait, de celle qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout réinventé. Au contraire de Denocoil, où c'est des enfants, donc ils ne sont pas encore vraiment formatés par les règles d'adultes. Ils vont vraiment s'orienter vers quelque chose d'un peu plus différent de ce que nous on connaît. Par contre, dans Log Horizon, qui est vraiment un monde où en fait il y a quand même pas mal d'adultes, hein, au final, ils vont garder une société qui au final est assez similaire à la société dans laquelle on vit actuellement.
Parce que c'est celle qu'ils connaissent, c'est laquelle ils sont habitués, et on n'a pas de personnes qui disent que la société dans laquelle ils vivent habituellement, il y a pas des révolutionnaires, il y a pas des personnes qui veulent changer absolument la société dans laquelle ils sont habituellement, dans laquelle ils sont
habituellement,
dans laquelle ils sont dans le Japon.
Tu peux considérer que les personnes qui se suicident justement pour essayer de trouver la vraie mort sont des révolutionnaires puisqu'ils se rebellent contre l'ordre établi de cette société. Mais ta question amène aussi une chose qui est très intéressante, c'est que ça reste des histoires. Donc il y a des facilités scénaristiques. Dans Log Horizon par exemple, ils ne peuvent plus déplacer parce que les portails de téléportation ne fonctionnent plus. Ça tombe très bien, on va dire. Mais par exemple, il y a peu d'enfants ou pas d'enfants. Ça tombe très bien aussi. Mais il y a des enfants, mais c'est des personnages non jouables. Effectivement, ce serait très compliqué, mais justement, ce qu'apporte cette œuvre, c'est qu'elle essaie d'apporter une réponse avec effectivement ses limites, tout en incorporant quand même un récit, un minimum de fil rouge de récit d'aventure pour porter tout simplement un récit. Parce qu'on ne peut pas simplement raconter une œuvre pour tout un univers. Enfin, ça pourrait se faire, mais ce serait plus une animation chorale et ce n'est pas vraiment le...
C'est des sociétés où en plus il n'y a pas besoin de questions ni d'éducation parce qu'il n'y a pas d'enfants, ni tout le système de soins parce que tu es dans un RPG, tu prends une potion, tu es soigné. Ou si jamais tu es dans un état critique, tu meurs, tu reviendras à l'église, tu seras en parfaite santé. Donc c'est des questions qu'on n'a pas besoin de se poser et que nous, dans notre vraie société, il faut qu'on se pose ces questions-là.
De même, certaines questions assez horribles, que j'aborderai pas ici, mais des crimes assez horribles, ne sont pas abordées parce que le scénario ne permet pas, tout simplement. Voilà. Mais voilà, tu vois, effectivement, il y a des limites, mais ils s'adaptent parce qu'ils n'ont pas le choix.
Est-ce qu'on a répondu à ta question ou pas? On a répondu à ta question? D'accord, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Peut-être. Est-ce qu'il y a des personnes qui
ont
une question là-bas?
Il y a deux autres questions.
Alors, on a vu, par exemple, avec SAO et Log Horizon, le fait qu'on soit dans un jeu vidéo contre notre gré. Mais, ou par exemple, dans No Game No Life, où ils y vont de leur gré et ils préfèrent. Enfin. Plus.
Il y a Onega Sniper comme jeu vidéo où ils s'y rendent de manière virtuelle, si on veut. Dans le 10e, 11e épisode. Mais oui, c'est un peu comme Escaflowne, c'est un monde parallèle où ils sont projetés de leur plein gré. Ouais.
Disons qu'ils y vont, mais ils y restent volontairement, on va dire.
Oui,
ils cherchent pas à s'enfuir.
Ouais, vas-y, pose ta question.
Oui, désolé, on t'interrompt.
Non, je voulais juste faire une remarque là-dessus.
D'accord. Oui, il y a aussi ce genre de cas où les personnages sont très heureux dans leur monde virtuel et ils veulent y rester. Hein.
Il y a un peu de ça dans Log Horizon d'ailleurs.
Et Dotac, tout simplement, Dotac, ils y vont volontairement, à part le héros Tsukasa de Dotac Axing, qui lui s'y retrouve sans savoir pourquoi. Et dans pas mal d'autres œuvres du transmédia,
c'est
souvent
aussi le thème, par exemple, de Final Fantasy Tactics Advance, pour parler un petit peu jeux vidéo, où justement les personnages sont projetés dans un autre monde et ils vont se poser toutes ces questions. Est-ce que dans cet autre monde, est-ce qu'on doit y rester? Est-ce qu'on doit y rentrer? Il y avait un des personnages principaux qui est handicapé dans le monde réel et qui là est en parfaite possession de ses moyens dans le monde virtuel. Lui, forcément, il n'a pas vraiment envie de revenir dans le monde réel.
C'est aussi le cas dans Log Horizon, d'ailleurs.
C'est aussi le cas dans Log Horizon.
Ouais, finalement, tout l'arc Mother Rosario de SAO, c'est cette question-là.
Il y a aussi toute cette question, voilà, des gens qui sont, ils sont heureux dans leur monde virtuel parce que, bah, ils ont des choses en plus par rapport au monde réel, hein, des choses qu'ils n'ont pas, que ce soit physique, que ce soit du prestige, que ce soit de la gloire, des amis, des relations sociales. Et bah, ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie de rentrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Non mais je disais Mother Rosario, mais en fait tout SAO dans la seconde partie, ils retournent volontairement, ils veulent même reconstruire Sword Art Online à l'intérieur d'un nouveau jeu de rôle parce qu'il s'y manque. Et tout l'aspect survivre pendant 2 ans, ça leur a évidemment été très pesant psychologiquement, mais ça les manque un peu parce qu'ils étaient, ils avaient vraiment construit une vie à l'intérieur de SAO. Puis s'ils y retournent vraiment volontairement dans les arcs suivants, parce que ça devient leur vraie vie. Donc tout l'arc Mother Rosario, c'est-à-dire le dernier arc de la saison 2, c'est vraiment un arc dédié justement à cette question-là. C'est finalement, est-ce qu'on n'est pas beaucoup mieux dans SAO qu'on l'est dans le monde réel? Est-ce que finalement, c'était pas vraiment là où on était destiné à être?
Et pour terminer pour citer un livre de science-fiction qui est d'ailleurs disponible ici, ce serait Demain les chiens qui pose également cette question également du fait de devoir rester dans un monde différent.
Oui. Il y avait une autre question.
Oui,
deux autres questions. Gardez vos mains levées.
C'est assez fabuleux.
C'est comme dans les quiz.
La célébrité, t'as n'importe.
Si je me souviens bien, dans Log Horizon, les personnages, au fur et à mesure de mourir, perdent des souvenirs de leur passé.
Tout à fait.
Dans la vie réelle. Alors, dans ce cas-là, est-ce que si au bout d'un moment ils vont perdre leurs souvenirs, le monde virtuel ne deviendrait pas leur monde réel parce qu'ils n'ont plus de souvenirs de leur passé et c'est le monde dans lequel ils vivent maintenant?
C'est un peu comme dans Ghost in the Shell finalement. Oui, parce que quand leurs mémoires sont complètement modifiées, qu'ils ne savent plus lesquelles des mémoires sont vraies ou pas, ça devient leur réalité concrète.
Après, comme me le disait Sushi, c'est une théorie qui est plus ou moins prouvée. J'ai plus exactement en tête. Il me semblait que c'était un fait. Mais le truc, c'est que la série ne l'aborde pas parce que forcément, quelqu'un qui perdrait tous ses souvenirs, il n'y aurait plus d'histoire, tout simplement. Parce qu'il pourrait pas avoir ces repères par rapport au monde réel, au monde d'où ils viennent. Ça devient plus vraiment le monde réel, mais le monde originel. C'est-à-dire, ils perdent pas le sens de la réalité, ils perdent leur origine, ce qui est un petit peu différent.
Mais dans la série, c'est abordé comme étant une possibilité. Ils ont l'impression qu'ils perdent des souvenirs, mais ils en sont pas certains. Il y en a qui déclarent que c'est vrai, mais notamment les personnages principaux disent qu'ils n'en sont pas certains. Voilà. Mais en tout cas, c'est une question qu'ils se posent, et justement, cela reflète plutôt leur inquiétude, justement, à oublier progressivement leur monde d'origine. Puisqu'au final, c'est celui dans lequel ils ont grandi, et même s'ils n'ont pas forcément vécu toujours des choses heureuses dans leur monde d'origine, ils y sont quand même attachés.
On a répondu à ta question?
Oui, je crois qu'il y avait une autre question.
Il y avait une autre question au fond. Au milieu.
Et bonjour. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans Log Horizon, par exemple, qui s'enfonce encore plus loin dans le virtuel en se disant « on va se créer un jeu de rôle qui serait le monde réel, à l'image du réel pour pouvoir de temps en temps s'échapper dans le monde réel qu'on recréerait. »
Eh ben écoute, je t'invite à écrire cette histoire parce que je la lirai volontiers.
Et symétriquement, je pense à un film de Fassbinder, donc Welt am Draht, donc le monde sur le fil, où à un moment, le héros se rend compte qu'il est dans un monde virtuel et il va trouver une échappatoire pour remonter d'un niveau dans le réel d'au-dessus.
Il n'y a pas ce film de Carpenter, je crois.
Je suis désolé, je ne connais pas ce film.
Il joue à des jeux dans le jeu.
Justement, ce que tu dis est intéressant dans Log Horizon, puisque justement dans Log Horizon, on apprend justement que quand les personnages meurent, ils voient pendant qu'ils sont morts des bribes de leurs souvenirs, de leurs souvenirs du monde réel. Et c'est aussi pour ça que certains personnages qui au final finissent par mourir en boucle, c'est pour pouvoir entreapercevoir un peu plus leur monde réel. Sinon, il y a aussi un autre parallèle qui est intéressant à faire, c'est dans la trilogie de romans Everworld, je sais pas si jamais c'est connu, on a notamment donc des adolescents qui se retrouvent eux aussi dans un monde qui lui est totalement imaginé selon les mythologies, et ils se rendent compte que quand ils s'endorment, ils retournent dans leur monde réel, dans leur vie réelle, comme si rien n'avait changé. Et je pense qu'au final, à chaque fois, les personnages ont toujours besoin d'avoir un rapport, un petit retour à leur monde d'origine, puisqu'après tout, voilà, encore une fois, ils sont attachés, même si jamais on voit souvent que des personnages ont eu une vie un peu pourrie dans leur monde d'origine, ils restent quand même attachés. Il y aura sûrement quelque chose d'intéressant en termes de psychologie à dire là-dedans.
Et à noter que l'histoire de Log Horizon n'est toujours pas finie, donc peut-être un jour, mais en tout cas, si tu écris cette histoire, je la lirai vraiment volontiers.
Alors, on va prendre une dernière question. Alors, qui veut quelqu'un qui n'a pas encore posé de question, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas posé de question et qui voudra en poser?
On a une question au fond à gauche, si vous voulez.
Oula, où ça?
Oula, ouais, ouais. La personne en vert.
Le temps tourne et le cosplay doit être à l'heure. C'est important.
Alors déjà, merci pour cette intervention et convention. C'est très intéressant. Et C'était par rapport à la réalité virtuelle. Vous avez parlé beaucoup de séries animées, de films, Ghost in the Shell. Ça refait surface en ce moment, mais est-ce que votre avis sur la réalité virtuelle est plus positif ou négatif? Parce qu'on entend beaucoup parler des défauts de la réalité virtuelle, que ça peut rendre introverti, que ça peut nous enfermer sur l'autre monde, que ça peut être ouvert, mais...
C'est la dernière question.
Au final, on ne sait pas spécialement si c'est plus positif ou négatif et ce que ça peut apporter.
Bah, là, c'est une question,
Très subjective. Vas-y, Tsushi.
Notamment, on a pu un petit peu le voir justement dans le plan qu'on a fait. C'est qu'au début, on parle sur des gens qui sont dans une réalité virtuelle, justement sur un cadre de jeu vidéo. Et au final, et après, on est allé petit à petit dans des cadres où la réalité virtuelle est quelque chose qui est mêlé au réel, très entremêlé. Et on a voulu terminer sur une note plutôt positive avec Summer Wars, où se traiter de manière un peu plus légère, même si encore une fois, il y a quand même un danger de menace de fin du monde.
Je pense qu'il demande vraiment nos opinions personnelles.
Mais dans tous les cas, c'est toujours traité de manière justement assez floue, puisque justement, on fait très souvent le parallèle après entre la virtualité et le réel. La conclusion qui arrive très souvent, c'est que le monde virtuel n'est pas très différent du monde réel. Et donc, de cette manière-là, tout comme le monde n'est pas intrinsèquement bon ou intrinsèquement mauvais, comme on pourrait le penser, peut-être que des personnes le pensent, mais c'est pas la question ici. Ici, on est dans un cadre où le monde virtuel n'est ni intrinsèquement bon ni intrinsèquement mauvais non plus. C'est juste un monde qui est lié d'une manière ou d'une autre au nôtre et qui n'est qu'une extension de celui-ci.
Juste
pour résumer en une phrase, je dirais que le monde virtuel n'est ni bon ni mauvais, il est juste intéressant, en fait.
Ça, puis toutes les œuvres qu'on a évoquées, finalement, ne portent pas vraiment de jugement. Voilà. Parce que, après, c'est vrai que les Japonais portent rarement des jugements. Dans l'animation japonaise, en tout cas, des vraies leçons, des vraies morales, etc. C'est assez compliqué d'en trouver pour de vrai. Donc c'est vraiment compliqué. Donc voilà, merci beaucoup
d'avoir...
C'est
terminé, merci à tous.
Merci à vous. Merci.
Si vous voulez encore nous parler, on est disponible juste ici, à côté, à droite de la scène.
Et on vous laisse
va laisser la place au cosplay.
Par la brigade SOS.
Si vous nous aimez beaucoup, j'aurai pas la voix cassée, mais en janvier, on sera à Japanand pour d'autres conférences, des jeux et des activités. Donc ça sera à l'école Polytech dans le Nord. Donc je vais laisser la place au cosplay. Et merci à vous.